Bonsoir. Les élections de décembre 2023 sont fortement menacées par la crise sécuritaire tant à l'est qu'à l'ouest du pays, constatée par les participants au forum des parties prenantes au processus électoral qui s'est clôturé ce jeudi 6 juillet 2023 à Kinshasa. Face à l'instabilité provoquée par les groupes armés dans l'est, le phénomène Mobondo dans l'ouest et les kidnappings à Kinshasa, les parties prenantes à cet important rendez-vous invitent le gouvernement à mettre des moyens conséquents pour assurer la sécurité des élections. Le forum des parties prenantes au processus électoral, composé de la CENI, des délégués des partis politiques, du gouvernement, de la magistrature et de la société civile, a également abordé des aspects sur la transparence du processus électoral. Ouvert mardi 4 juillet à Kinshasa, cet atelier a été organisé par plusieurs partenaires internationaux de la RDC, notamment NDIA, le PNUD, Open Society Foundation et le Centre Carter. Que pensez-vous de cette initiative des partenaires internationaux de la RDC pour des élections apaisées en RDC? Nous en parlons ce soir avec Dany Aïda, qui est représentant au pays de NDI. Dany Aïda, bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Kabengele est aussi avec nous dans ce studio. Il est coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de la sécurité et justice. Emmanuel Kabengele, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Au téléphone, Cyril Ebotoko, secrétaire exécutif de la Commission épiscopale Justice et Paix de la SENCO. Il est coordonnateur national de la mission d'observation électorale. Voilà, SENCO-SEC. Cyril Ebotoko, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Kisangani, dans la province de la Tchopo, vous nous suivez sur la 94.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radio-okapi.com. Ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Vous pouvez aussi nous suivre en live sur la page Facebook de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Le 20 décembre prochain, il y aura bel et bien élection présidentielle et législative nationale. Ne vont être proclamés élus que ceux qui auront la majorité des voix issues conformément à la vérité des urnes. C'est ce qu'a affirmé le président de la CENI, Denis Kadima, au cours de la clôture ce jeudi à Kinshasa du forum des parties prenantes au processus électoral. Toutefois, les contraintes budgétaires et sécuritaires demeurent les deux défis à relever, souligne le président de la CENI. Reportage Michel Kifinda.
À en croire le président de la CENI, il n'y a techniquement aucun obstacle à la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Denis Kadima invite donc les partis politiques à déposer leur liste de candidatures, car aucune prolongation ne sera accordée.
Vous savez, nous avons déjà fait plus d'une semaine, nous sommes peut-être au 10e jour, je ne sais pas, on avait commencé le 25, le 26, et ils n'ont pas encore soumis les dossiers. Et à la fin, on va nous demander de prolonger. Nous n'avons pas le temps de prolonger. Le 20 décembre 2023, nous aurons des élections dans ce pays. Il y a beaucoup de prophètes qui disent qu'il n'y aura pas d'élection. Moi, je vous dis que sur le plan technique, nous sommes prêts. Le 20 décembre 2023, ne dites pas que je ne vous l'ai pas dit. Je le dis depuis le premier jour et parfois on ne le croit pas.
La CENI souligne tout de même des contraintes financières et sécuritaires qui sont encore les seuls défis à relever.
Notre difficulté, il est d'abord sécuritaire et puis financière. Mais même alors, même avec des moyens plus limités, nous continuons à faire ce que nous devons faire.
Le financement, bon, je pense avoir tout dit, le gouvernement s'active. En principe, aujourd'hui, on doit avoir quelque chose, mais quand ça va tomber dans notre compte, ça sera englouti dans le découvert que nous avions pris.
Quant à la transparence du processus électoral, Denis Kadima rassure que le fichier électoral est très crédible et que les résultats des élections seront publiés bureau de vote par bureau de vote et qu'aucune nomination ne sera proclamée en lieu et place des personnes élues.
Merci Michel Kifinda pour ce reportage. Dany Aïda, je rappelle que vous êtes représentant au pays de NDI, National Democratic Institute. Vous êtes parmi les organisateurs de ce forum pour des élections apaisées et crédibles en RDC. Pourquoi avoir organisé cet atelier?
Alors, nous avons organisé cet atelier parce que nous travaillons avec des Congolais, des institutions congolaises engagées dans les élections. Et nos partenaires congolais ont soulevé un certain nombre de préoccupations liées au processus électoral qui nécessitaient, à notre avis, des consultations, des discussions pour chercher des voies de solution. Principalement, en ce qui concerne le NDI, nous travaillons avec les partis politiques, toutes tendances confondues, Nous avons depuis 2 ans un groupe de contact des partis politiques qui réunit les grandes coalitions et regroupements du pays. Et à ce niveau-là, surtout du côté de l'opposition, nous avons constaté qu'il y a une sorte de crise de confiance dans le processus électoral. Certains partis politiques, certaines formations politiques reprochent à la CENI sa composition. D'autres reprochent le calendrier électoral ou bien encore le fichier électoral et dernièrement encore l'audit du fichier. Donc tout cela, à notre avis, bon, il y avait quand même trop de monologues et nous pensons qu'il fallait organiser un tel forum, permettre à chaque partie prenante de se voir, de rencontrer les autres acteurs et puis de discuter pour voir quelles sont les voies et solutions. Et c'est ce qui a permis, à notre avis, je ne dirais pas de juguler ces questions, mais au moins d'avoir une convergence de vues sur leur acuité et puis la possibilité de trouver des solutions.
Alors, à la clôture de ce forum, y a-t-il eu convergence de vues?
Nous pensons que d'abord, il y a une prise de conscience de chacun de ce qu'il y a. Il y a nécessité de, disons, de faire l'effort, de se parler, rechercher des solutions ensemble. Et toutes les parties prenantes, et ça a été le grand acquis de ce forum, ont répondu à l'invitation. Des juridictions à compétence électorale, la sécurité, la société civile, les partis politiques, pouvoir et opposition, y compris même l'opposition qui, jusqu'à présent, a dit qu'elle n'a pas l'intention de participer à cette élection. Ce qui démontre quand même que ces acteurs-là font confiance à nos organisations qui accompagnent donc ce processus. Et on pense qu'il y a pense que nous pourrions aménager des espaces leur permettant de trouver des solutions. La CENI aussi a eu du mérite de participer depuis le début à ces discussions, apporter des réponses à quelques questions qui lui sont posées. Et nous pensons que c'est un début de recherche de solutions. Et maintenant, il y a pas mal de questions qui nécessitent que les acteurs politiques aillent au-delà des déclarations de ce genre.
Lesquelles, par exemple?
Ben, écoutez, quand, par exemple, l'opposition, vous prenez le PPRD et le FCC qui disent que les personnes qui les représentent au sein de la CENI n'ont pas leur caution. Donc ça, c'est une question éminemment politique qui nécessite que ça soit adressé. Et il n'appartient certainement pas à la CENI de se remanier elle-même. Donc s'il faut qu'il y ait des membres de la CENI qui soient remplacés par d'autres personnes, la décision doit être prise au niveau politique, au niveau gouvernemental, au niveau parlementaire. Et ça demande des concertations qui dépassent le cadre simple des acteurs impliqués.
Alors, selon Denis Kadima, le train est déjà en marche. C'est difficile de le stopper. Peut-on aller aux élections sans cette frange de la population qui est dans l'opposition? Peut-on aller aux élections, je voulais dire, sans cette frange de la population représentée notamment par le FCC?
Nous avons été sensibilisés sur le fait que les élections en RDC depuis 2006 ont été marquées par les surenchères de ce genre-là. Les surenchères en termes pas seulement de revendications qu'on ne puisse pas régler, mais bon, la crise de confiance vient de faits réels que les partenaires soulèvent. Ce qu'il faut faire, c'est l'effort de moins d'en discuter, vous voyez, de trouver des compromis. Parfois, des gens ont des positions parce qu'ils n'ont pas l'information exacte ou alors ils n'ont pas la possibilité de comprendre les conséquences de certains actes posés par des acteurs. Donc, il y a lieu, et je pense qu'il y a pas mal de questions qui nécessitent à ce qu'on se mette d'accord. Est-ce que le calendrier électoral tel quel peut être tenu? Est-ce qu'il faut organiser des élections à tout prix parce qu'il faut respecter les délais? Ou bien il faut organiser des élections dont ressortiront des institutions crédibles auxquelles la population fera confiance et éviter qu'à la fin du processus actuel s'ouvre un contentieux qui dure encore des années alors que les congrès, à notre avis, ont des exigences ou des demandes qui nécessitent à ce qu'il y ait une certaine accalmie au sein de la classe politique.
Alors, on a suivi Denis Kadima tout à l'heure dans le reportage qui est passé, qui confirme la tenue des élections le 20 décembre prochain, mais il y a quand même des contraintes, notamment budgétaires et sécuritaires, qui demeurent les deux grands défis pour avoir des élections apaisées dans le pays. À la lueur où vont les choses, pensez-vous, Dani Aïda, que la question sécuritaire, nous sommes à 5 mois des élections, pensez-vous que cette question pourrait être réglée?
Il faut certainement que les décideurs nationaux évaluent la situation. Si je ne crois pas qu'il soit recommandé que les élections se tiennent quand certaines composantes de la société ne puissent pas participer. Maintenant, puisqu'on n'est pas sûr non plus de régler définitivement ces questions-là, il faut trouver un compromis là-dessus. Je crois que les élections passées se sont déroulées aussi avec certaines difficultés dans certaines zones du pays, mais il y a eu des solutions. Ce que nous pensons et ce dont nous sommes sûrs, c'est que la CENI a publié un calendrier. Et avant cela, une feuille de route. Aujourd'hui, il y a des efforts que la CENI consent pour commencer à parler à certaines oppositions. Nous avons appris que la CENI a adressé des correspondances à un certain nombre d'acteurs. Je crois que c'est un pas. Maintenant, les questions qui dépassent la CENI, la passion au gouvernement, au Parlement et autres aussi, de prendre la mesure de la situation pour savoir comment régler ces questions-là et ne pas attendre que cela s'aggrave. Il serait malheureux quand même qu'après la tendance que le pays a connue en 2018, les prochaines élections soient boycottées, par exemple par l'ancien parti au pouvoir. À notre avis, ce n'est pas quelque chose qu'il faut conseiller.
Monsieur Kabengele, Emmanuel Kabengele, vous êtes coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de la sécurité et la justice. Vous avez aussi pris part à ce forum des parties prenantes au processus électoral. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de la situation sécuritaire en RDC aujourd'hui?
Merci de la parole. J'ai pris part à ces forums et j'y suis même intervenu pour pouvoir pratiquement donner notre grille de lecture sur l'incidence de l'insécurité sur le processus électoral 2023-2024. Et dans la grille de lecture que nous avons pu donner, nous avons pu faire état du fait que cette question demeure une tache d'huile qui plane sur le processus électoral. Tant que les différents acteurs ne s'investissent pas pour pouvoir y trouver solution, eh bien, nous risquons également d'arriver en décembre à faire des élections qui seront contestées ou bien qui se dérouleront dans un environnement pratiquement pollué sécuritairement. Et c'est comme ça que nous en avons appelé à la responsabilité des parties prenantes, mais surtout la partie prenante gouvernementale, parce que par rapport aux questions sécuritaires, c'est d'abord avant tout le gouvernement congolais qui se doit de pouvoir donner le moyen qu'il faut. Parce que les questions sécuritaires ne se discutent pas simplement en disant que nous avons un plan, en disant que nous avons des policiers, en disant que nous avons formé ces policiers. Mais les questions sécuritaires se discutent aussi en disant voilà les moyens que nous donnons pour pouvoir équiper la police à pouvoir intervenir de manière professionnelle, donner les armes non létales à la police pour pouvoir ne pas créer des aspects qui pourraient porter atteinte au droit à l'intégrité physique de personnes, essayer de pouvoir d'une certaine manière démilitariser en fait un peu cette manière d'intervenir des agents de sécurité lorsque il s'agit de maintien de l'ordre. Je crois que à ce niveau-là, il y a encore du pain sur la planche. Dans le monitoring que nous avons eu à faire pratiquement juste par rapport aux manifestations publiques récentes, on s'est pratiquement rendu compte que la police, bien sûr que l'AI a fait les choses telles qu'elle pouvait faire, mais sincèrement, en termes de moyens pour pouvoir assurer la sécurité ou maintenir l'ordre, on a senti qu'il y avait un déficit de ce côté-là. Et en essayant de causer avec certains officiers de police, ils vous disent que deux fois ça l'avait, qu'on vient vous informer ou on vous donne quelques autres moyens qui ne suffisent pas pour pouvoir déployer le policier sur terrain. Un policier sur terrain qui est déployé et qui n'est pas suffisamment motivé voudrait se motiver à travers le terrain où il est déployé. Donc sincèrement, je me dis que la sécurisation, c'est d'abord avant tout la responsabilité première du gouvernement, mais également aussi de la population, parce qu'on se doit de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un système de veille qui permet de voir toute tendance un peu à la manipulation de l'opinion qui peut être sujette à l'origine des violences, qui peut être sujet, parce qu'il y a également aussi certaines incitations à la violence de manière verbale, parce qu'il y a des discours verbaux qui peuvent être aussi des facteurs favorisant.
Vous en avez parlé aussi au cours de ce forum.
Nous en avons parlé, on en a débattu sincèrement.
Alors, Emmanuel Kabengele, il y a Marcel qui nous suit depuis Kikwit. Il est en direct sur notre page Facebook Radio Kapi. Il nous suit en live. Il vous demande à vous, faut-il aller aux élections avec la situation sécuritaire qui est volatile en RDC parce qu'il faut respecter le délai constitutionnel du 20 décembre.
Bon, vous savez que c'est une question pratiquement en termes de préoccupation. Nous avons dit que c'est une tache d'huile parce qu'on a presque affaire à ce qu'un des rapports d'une structure nommée insécurité sécurisée. Donc il y a pratiquement beaucoup de bruit en termes de couac sécuritaire et qu'il y a lieu que nous puissions, que le gouvernement puisse investir pour que au moins le peuple congolais puisse avoir droit aux élections qu'il mérite. Et au moins que nous puissions avoir des élections qui deviennent un instrument de développement et non un instrument de violence. C'est en fait une préoccupation de taille et nous pensons que à moins de 6 mois, parce que maintenant c'est moins de 6 mois, donc on a
nous
déjà...
Nous sommes à 5 mois.
À moins de 6 mois des élections, il y a lieu également aussi qu'il y ait un paquet en termes de moyens qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que la sécurité revienne. Bien sûr qu'on n'aura pas une sécurité à 100%, même dans des pays de suffisamment avancés, il n'y a pas de sécurité à 100%. Mais qu'au moins, la population puisse être sécurisée dans l'accomplissement de son droit de vote. Que le jour où il y a élection, que la situation soit calme et nous amène à une messe faite de manière apaisée.
Alors, la CENI a besoin des moyens, il faut des moyens pour la sécurisation des élections, des moyens pour sécuriser la population. Le gouvernement ne risque pas de se retrouver asphyxié.
C'est pas pour rien qu'il est gouvernement. Donc, quand vous êtes gouvernement, c'est pour pouvoir affronter les défis tels qu'ils sont. Parce que sans sécurité, on ne peut même pas parler des élections. Parce que s'il y a des bruits de bottes, s'il y a violence, comment vous pouvez vous déplacer de chez vous vers le centre de vote? Donc, pratiquement, vous risquez d'avoir zéro électeur qui sort parce que y a en fait un peu de violence sur la route. Donc, le gouvernement, parce qu'il est gouvernement, doit prendre ses responsabilités. Et ses responsabilités pour nous, c'est d'abord en sortant le moyen qu'il faut pour que la police soit davantage plus professionnelle, soit mieux équipée, mieux outillée et puis suffisamment motivée pour pouvoir assurer le travail qu'il faut.
Alors, Denis Kadima, président de la CENI, confirme que le 20 décembre, on aura des élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez aussi que c'est possible d'organiser les élections dans le délai?
La CENI, c'est l'organe technique. Bon, en fait, moi, je ne suis pas de la CENI, donc c'est l'organe technique. S'il nous dit qu'il va y avoir élection, c'est qu'effectivement, techniquement, ils sont à mesure, donc toute l'équipe de la CENI est à mesure d'organiser ces élections-là. Mais entre-temps, c'est suspendu aussi par le fait qu'il y a encore certaines contraintes qui plane sur le processus. Lui-même l'a fait démontrer et il y a certaines contraintes qui ne sont pas nécessairement de la responsabilité de la CENI, comme la contrainte sécuritaire et également la contrainte financière. Le souci est même le dialogue que nous avons eu à travers déjà le forum qui y a eu, c'était pratiquement de pouvoir échanger et nous avons beaucoup apprécié la qualité, l'élégance dans le débat et nous en sommes reconnaissants aux organisateurs parce que au moins on a vu l'opposition, on a vu la majorité pouvoir de manière élégante participer au débat sans frustrer. Bon, même s'il y a toujours un peu quelques petits couacs en termes un peu interactionnels, mais au moins en dernière analyse, les idées ont eu à être avancées et nous nous sommes tous rendus compte que chacun de nous doit mettre sa main à la pâte. Chacun de nous devra jouer un rôle très très déterminant.
Il y a eu des recommandations ici de ce forum.
Il y a eu suffisamment de recommandations et la plus grande recommandation, c'est l'attention qu'il y a accordée aux questions sécuritaires. Sinon, on va oublier les élections. Parce que telle que la situation est en l'état où elle est, sincèrement, on est loin de l'optimisme. Et nous pensons que le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur, et à travers aussi les autres secteurs techniques qu'ils puissent s'investir, mais s'investir en donnant le moyen qu'il faut. Parce que si le policier est mieux formé, s'il est mieux motivé, sincèrement, la sécurisation pourrait être un allant de soi. Mais si lui-même n'est pas sécurisé dans ses droits, en tout cas, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une panique, qu'il y ait même dans la gestion de file d'attente, qu'il y ait des cas de de trafic d'influence, parce que tel voudrait profiter et lire bien avant et voudrait s'entendre avec tel ou tel autre policier moyennant telle ou telle autre somme d'argent. Il faut que déjà dès maintenant on prenne des précautions là-dessus.
Merci beaucoup à tous ces internautes qui nous suivent depuis la page Facebook de Radio Okapi. Ces internautes qui se trouvent à Maïndombe, par exemple, dans le territoire de Kwamout, plateau des Bateke. Ces internautes qui sont à Bunia, à Kamituga, au sud Kivu, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, à Bukavu, au sud Kivu. Merci beaucoup de participer, d'envoyer vos réactions sur la page Facebook de Radio Okapi. Cyril Ebotoko, vous êtes secrétaire exécutif de la commission épiscopale justice et paix de la SENCO. Vous êtes également coordonnateur national de la mission d'observation électorale SENCO-SCC. Que pensez-vous d'abord de l'organisation de ce forum?
Madame, permettez-moi d'abord de saluer mes deux co-débatteurs, Emmanuel et Dani, qui sont avec vous sur le plateau. Par rapport à la question que vous me posez, je voudrais vous dire que l'initiative de ces partenaires internationaux, NDIA et les autres, c'est quelque chose à louer, c'est quelque chose qui participe à la restauration de la confiance entre les parties prenantes. Vous savez que dans un processus électoral, la confiance des parties prenantes, c'est comme le sang dans le corps humain. Un processus électoral qui ne bénéficie pas de la confiance de toutes les parties prenantes, c'est un processus électoral qui n'a pas vraiment de sens. D'autant plus que l'OGE, chez nous la CENI, c'est un arbitre. Et quand vous arbitrez, vous êtes arbitre, vous devez bénéficier de cette confiance pour que votre travail soit de plus en plus apprécié. C'est à ce titre que nous apprécions, nous, l'initiative de ces partenaires. Comme nous avons toujours dit dans nos recommandations, qu'il faille des cadres de concertation assez ouverts, assez francs, pour que les partenaires se parlent, pour que la CENI donne des explications, des clarifications, afin que des zones d'ombre qui posent problème, à cause desquelles aujourd'hui certains acteurs ont considéré que le processus était mal engagé, si de telles initiatives peuvent permettre à ce qu'on puisse élever ces zones d'ombre, pourquoi ne pas apprécier et renforcer ces initiatives? Seulement, nous avions souhaité que cette initiative puisse aboutir, par exemple, à un acte d'engagement entre les différentes parties prenantes et la CENI, chacune en ce qui le concerne, et évidemment, sans entraver l'indépendance de la CENI qui est reconnue par la Constitution et d'autres lois de la République. On avait voulu qu'on ait de tels actes d'engagement pour que désormais on sache comment on va se comporter, comment on va aller. En fait, pour que le processus, l'avenir du processus soit beaucoup plus éclairé, soit beaucoup plus éclairé. Donc, à notre niveau, nous avons apprécié à juste titre cette initiative à laquelle nous avons participé.
Alors, ce forum a abordé plusieurs sujets. C'est notamment l'enregistrement des électeurs, la transparence et la sécurité du processus électoral, mais aussi l'engagement des partis politiques, ainsi que l'état d'avancement du processus électoral. Parlons de la transparence même de ce processus électoral. Beaucoup de partis politiques, surtout de l'opposition, estiment que il n'y a pas de transparence au fait dans le processus électoral en cours. On parle du fichier électoral qui est corrompu. La SENCO a critiqué même le processus en cours. Vous avez besoin de quel genre de transparence, Cyril Ebotoko?
Madame, la transparence, c'est l'élément cardinal pour la restauration de la confiance. S'il n'y a pas de transparence dans un processus électoral, c'est-à-dire les parties prenantes ne comprennent pas ce qui se passe, vous pouvez donner de bons résultats. Mais si les gens n'ont pas été impliqués, ils n'ont pas vu ce qui se passe, ça pose problème et ils ne peuvent pas faire confiance à un processus. Et à ce niveau, nous apprécions quand même l'attitude de la CENI durant tout le long du processus d'enrôlement, d'identification et d'enrôlement des électeurs. Parce que les observateurs ont été accrédités, les témoins pour ceux qui ont demandé ont été accrédités. Nous avons eu beaucoup de réunions d'échanges avec la CENI et consorts. Si la CENI, la SENCO revient sur la transparence, Et quand nous disons même que la CENCO a dit que le processus était mal engagé, il faut situer les problèmes au niveau du management. Et ils ont bien clarifié cette option. Il y avait des faits dans le processus d'enrôlement des électeurs qui posaient problème. Et on avait voulu qu'il y ait une tripartite entre la CENI, les partis politiques et les organisations de la société civile qui avaient des missions d'observation, afin qu'une fois pour toutes, cette question soit éclairée et qu'on tourne la page. Dieu merci, aujourd'hui, même si ça arrive en retard, la CENI, même notre absence ne pose pas problème, a entamé une série de contacts avec les acteurs de l'opposition. Nous suivons comment ça évolue. Tout ce que nous souhaitons est que de toutes parts, c'est-à-dire et pour la CENI et pour ces partis politiques, qu'il y ait un peu plus de bonne foi pour que effectivement ils arrivent à un consensus, si on peut le dire ainsi, qu'ils se mettent d'accord sur un certain nombre de choses et qu'ils avancent. Nous notons aussi qu'ils continuent à diverger en ce qui concerne l'audit externe du fichier. Nous souhaitons qu'il y ait de plus en plus de contacts sur cet aspect et que la CENI puisse donner encore des assurances à ces partis politiques pour qu'ils s'engagent, ils comprennent et qu'ils acceptent d'aller aux élections avec ce fichier. Vous avez abordé la question de la sécurité. Et j'ai suivi religieusement le président de la CENI que je salue. J'ai apprécié son speech aujourd'hui dans le forum, même si je suis à distance, mais je l'ai suivi. Il a essayé de rencontrer les préoccupations qui ont été exprimées par toutes les parties prenantes qui sont intervenues dans ce forum, comme dire que son directeur de cabinet qui était là a fait un grand travail de notes pour l'aider à rencontrer toutes ses préoccupations. Nous apprécions cette attitude et nous voulons que ça puisse continuer. Il a dit que la CENI techniquement est prête, oui, parce qu'il faut reconnaître à la CENI, c'est un niveau de technicité. Il est au quatrième cycle d'organisation des élections. Il y a pas mal d'experts techniciens au sein de la CENI. Je comprends qu'au niveau de la préparation, la CENI est prête, mais au niveau de l'implémentation, ça peut poser problème. Et je vais m'expliquer. La CENI a un fichier aujourd'hui, il y a des contacts pour le faire accepter par toutes les parties prenantes. On espère que la CENI y arrivera. Donc, il y a ce corps électoral qui est là. La CENI a entamé l'opération de traitement et de réception des candidatures. Et le président vous a dit que jusque-là, il n'y a pas grand-chose, les partis n'y vont pas. Imaginez si les partis ne déposent pas leur candidature, on va organiser les élections avec qui? L'un des critères pour une élection crédible, c'est aussi la compétitivité. Il faut qu'il y ait des candidats des différents partis politiques, il faut qu'il y ait compétition pour qu'on parle aussi qu'il y avait réellement élection. C'est un défi. La CENI est prête, elle a disposé les BRTC, il faut que les gens arrivent. Donc, au niveau de l'implémentation, ça pose problème. Un autre aspect, la CENI peut avoir le corps électoral, il peut avoir des candidats, mais il faut avoir des bulletins de vote où vous avez les noms des photos de ces candidats, où configurer ces éléments de machines à voter. Donc cet élément voudrait que la CENI puisse avoir des moyens. Au niveau de la préparation, la CENI est prête, mais pour l'implémentation, la CENI doit avoir des moyens pour que ces éléments soient mis dans les supports qui permettent à ce que demain, les gens puissent aller voter. Après, la CENI aura besoin d'autres matériels qu'il faut acheter, bien que techniquement prête au niveau de la préparation, et il faut de l'argent pour acheter ces matériels. Donc, les finances, la contrainte financière, peut être un élément qui peut déranger même la préparation technique de la CENI. Aujourd'hui, vous avez parlé de la sécurité. La sécurité aujourd'hui, il y a plusieurs parties du pays, il n'y a pas que Rutshuru, Masisi et autres. Même au sud, il y a des poches d'insécurité. Vers Manono, là-bas, le conflit Pygmée-Bantou, il y a des poches d'insécurité. Et Mobondo, ils sont à la porte de Kinshasa. Nous pouvons nous réveiller un jour si on n'y prend pas garde, les gens de Mobondo sont là parce qu'ils ont touché quelques coins de Maluku, qui est une commune de Kinshasa. Donc, la situation sécuritaire peut aussi déranger même au niveau de la préparation technique parce que quand vous avez conçu, préparé au bureau, il faut maintenant installer le bureau de vote et le centre de vote dans les localités, dans les groupements, dans les quartiers, etc. Et si vous n'avez pas accès à ces endroits-là, techniquement, vous ne pouvez pas organiser les élections dans ces niveaux. Il faut prendre au sérieux les propos du président de la CENI quand il parle de contraintes financières et sécuritaires. Et pour finir avec la contrainte sécuritaire, je pense Vous savez que c'est de la responsabilité de l'État. Si on le dit, ce n'est pas un harcèlement où on accuserait qui que ce soit, mais parce que c'est l'État qui doit tout faire pour sécuriser les personnes, les biens et les frontières nationales. Si on n'y arrive pas, c'est en ce moment-là qu'on dit qu'il s'agit de la responsabilité de l'État. Mais il y a beaucoup de moyens pour le faire. Nous avons aujourd'hui les troupes de l'EAC. Je conclue, madame.
Rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Suivez-vous, Toko.
Merci. Les troupes de l'EAC sont là, les chefs de la SADC vont arriver. Mais on peut intégrer dans leur mission, leur accompagnement, les intégrer dans les mécanismes de sécurisation du processus électoral que l'État va mettre en place. Ils peuvent aider dans ces zones-là qu'il puisse y avoir des élections, même si le déplacement des personnes posera toujours un peu problème.
Alors, très rapidement, le président de la CENI répondait aujourd'hui à une question d'un participant. Hein. C'était sur... ça concernait les comptages des voix. Alors, pour le président, le comptage parallèle des voix n'est pas interdit par la loi. D'ailleurs, la CENCO l'a fait en 2018, mais il trouve que ce genre de comptage... il y a quand même beaucoup de faiblesses hein, lorsqu'on applique ce genre de comptage. Vous qui êtes de la CENCO, qui l'avait fait en 2018, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est un processus que j'ai supervisé personnellement et je le connais par cœur. Madame, je dois apprécier la sincérité du président de la CENI sur ce point, qui a affirmé du haut de la tribune que le PRVT n'était pas interdit. La loi ne l'interdisait pas. Et que nous, on l'avait mené en 2018. Le président, alors qu'il était chez EISA, il était parmi les personnes qui vraiment nous avaient encouragé à mener ce processus de comptage parallèle de voix. Et il y était revenu après pour le compte d'un partenaire pour évaluer avec les autres. Un travail humain ne peut pas manquer de faiblesses. Mais ce travail-là, les résultats auxquels il est arrivé, vous avez suivi avec des experts au niveau international, des experts indépendants, qui ont confirmé la qualité de ce travail-là. Je crois que quand le président parle de faiblesse, il évoque un seul aspect, peut-être qu'il n'a pas eu beaucoup de temps pour expliciter, c'est que nous n'avons pas mené suffisamment de sensibilisation pour que les gens comprennent ce que c'est le PRVT. Parce que on vous dira, voilà, ils étaient que dans près des bureaux de vote, comment ils peuvent avoir des résultats? Tout le monde peut dire ça. Mais il fallait montrer aux gens qu'avec un échantillon de bureaux de vote, on peut arriver à des tendances qui peuvent confirmer les résultats. Et un cas exemple, quand vous allez pour faire l'examen des sangs dans un hôpital, on ne prend pas tout le sang de votre corps. On prend juste une petite quantité de sang et on vous dit, voilà, et vous avez telle quantité de sang dans votre corps. C'est un peu ça. La faiblesse au niveau de la sensibilisation, de la communication, et merci. Nous sommes en train de nous organiser pour que cela n'y arrive pas. Pour conclure, madame, sur ce point, nous voulons assurer la CENI.
Michel Ebotoko, vous avez largement parlé. On vous garde en ligne le temps de prendre ces auditeurs qui sont très très nombreux à appeler sur notre standard, qui veulent aussi donner leur point de vue par rapport à ce forum organisé par les partenaires internationaux de la RDC. On va se rendre à Bukavu, si j'ai bonne mémoire, pour écouter cet auditeur qui nous appelle.
Jean Jado Igilima, à partir de la ville de Bukavu en province du Sud-Kivu. L'initiative de ses partenaires internationaux de la RDC pour les élections apaisées est salutaire et intervient au moment où la classe politique de l'opposition et les autres acteurs de la société civile fustigent non seulement la situation sécuritaire qui ne garantit pas la tenue de ces élections, mais aussi la non-transparence de ces processus tendant à entretenir une exclusion de certaines entités du pays et les acteurs majeurs compétitifs de ce régime qui nous a montré son incapacité, non seulement dans la gouvernance, mais aussi dans la stabilisation de la sécurité en RDC. Cependant, je me demande quels sont les moyens que disposent ces partenaires pour amener ce régime d'assurer une transparence et l'inclusion de toutes les parties prenantes à ce processus en amont et en aval, je voudrais savoir l'attitude de ses partenaires internationaux aux élections en RDC au cas où ces dernières seraient encore organisées au compromis à l'africaine comme ce fut le cas en 2018.
Dani Aïda, ces deux questions vous sont adressées.
Oui, en termes de compromis, déjà, le seul compromis qui est utile à la RDC aujourd'hui, c'est que les acteurs majeurs du processus s'accordent sur les conditions les meilleures pour organiser les élections dont les résultats seront opposables à tous. Il n'y a pas moyen de, disons, de trafiquer les voix des électeurs pour dire « c'est à l'africaine, ça n'a pas de sens, au fait ». Il faut faire en sorte que quand il y a quand les Congolais vont aux urnes le 20 décembre, si cette date est retenue définitivement, qu'ils soient rassurés que les résultats qui vont sortir sont les bons. Je pense que c'est le seul compromis possible aujourd'hui. Il n'y a pas moyen, pour une raison ou une autre, de dire tel a gagné, mais on donne à tel autre. Ce n'est pas possible et ça, c'est quelque chose qu'il faut définitivement éradiquer.
Alors, quels moyens vous disposez pour amener, selon lui, le régime d'assurer la transparence et l'inclusion de toutes les parties prenantes au processus électoral?
Alors, nous avons eu aujourd'hui la CENI, mais avant la CENI, nous avons eu un panel très important où la majorité de l'opposition ont échangé. Chacun avait son point de vue sur le processus. Certains sont rassurés que les choses vont dans le bon sens. D'autres disent qu'il y a un certain nombre d'aspects qu'il faut améliorer. Nous pensons que c'est un bon début. La RDC a l'expérience des élections. Il y a, par exemple, ceci qui doit mener bientôt à ce qu'il y ait un code d'éthique et de bonne conduite pour les candidats et les partis politiques. C'est un processus qui doit aussi rassurer les uns les autres. La CENI a tout l'arsenal juridique du pays pour organiser les élections. À côté de ça, si le PPRD et FCC disent « on a telle attente », il faut qu'on s'accorde pour dire « est-ce qu'on peut régler cela d'une manière ou d'une autre ?» Sinon, bon, on passe à autre chose. À côté de ça, il y a l'opposition qui dit « le fichier électoral ne nous rassure pas. Nous voudrions avoir accès à la liste des électeurs pour vérifier ceux qui sont inscrits, est-ce que ce sont les Congolais valablement habilités à voter ?» Il faut leur donner droit. Donc quand on parle de transparence, c'est l'accès à l'information avant tout. Donc je pense que la CENI a commencé à poser des actes qui nous semblent encourageants et il faut les soutenir dans ce sens-là. Le gouvernement fait des efforts pour financer des élections. Les partenaires internationaux que nous sommes pour la plupart des ONG internationales. Nous sommes en principe des organisations carrément congolaises parce que c'est les Congolais qui, pour la plupart, animent ces organisations. Quand vous citez NDI, RI, Open Society, Internews, Centre, Carter et PNUD, ça fait plus de 15 ans que la plupart de ces organisations appuient les élections en RDC. Alors, nous pensons qu'il y a beaucoup d'ambassades ici, il y a la SADC, il y a East African Community et autres, qui disent on est à côté de la RDC. La question de sécurité, les élections, c'est un incident, ça passe en une journée. Mais la sécurité des Congolais, c'est une affaire tous les jours. Donc, on ne peut pas lier les élections qui sont temporelles à la sécurité entière. Donc, il faut penser la question à sa juste proportion et adresser cela durablement. Et donc, je pense que si il faut trouver, on peut pas investir des milliards de francs dans des élections juste parce que on voudrait que ça se passe. Non, au-delà de ça, les élections, on vote pour des gens. Après, il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils voient comment les acteurs auxquels ils ont fait confiance dirigent. Et cela demande un engagement majeur de façon durable. C'est pour cela que nous pensons que même si le ministère de l'Intérieur nous dit aujourd'hui qu'on a 913 partis, nous savons ce qui pèse. C'est ceux-là que nous avons réunis au cours de ces trois jours. Donc, il faut des concertations. Il faut des compromis. Et nous autres, nous faisons un petit accompagnement, mais la solution définitive et finale revient à nos partenaires congolais. Ils sont capables de trouver des solutions.
Alors, très brièvement, Cyril Ebotoko aurait souhaité que ce forum se clôture avec un panel d'engagement des parties prenantes.
Oui, nous pensons que c'est un bon début. La plupart des acteurs sont des gens que nous connaissons bien. Les acteurs sécuritaires, les judiciaires, tout le monde connaît son niveau de responsabilité. Maintenant, ce processus est assez inclusif déjà, c'est assez ouvert. Je pense qu'une brèche est ouverte, il faut s'y inscrire et puis voir comment les contributions des uns et des autres vont rassurer. Et c'est un bon début et nous pensons que la volonté est manifeste.
Emmanuel Kabengele, on va prendre aussi pour vous très rapidement cet autre auditeur qui nous appelle de Lubumbashi.
Bonjour Radio Okapi, c'est M. Valo Tivadi depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Oui, concernant la thématique de ce soir, moi je dirais bien que aller aux élections pour le moment, c'est trop vite aller en besogne. aller trop vite en besoin dans quel sens? Vous savez qu'on nous a promis qu'il y aura recensement. Les recensements n'ont pas eu lieu. Vous savez qu'aller aux élections avec la guerre à l'Est, en tout cas, c'est très difficile. Nous avons la guerre. Et il y a d'autres provinces, d'autres territoires à l'Est de notre pays qui ne se sont pas enrôlés. Mais vous voulez qu'on puisse aller aux élections. Il y a de l'insécurité partout par-ci, ici. Il y a de l'insécurité. Il faut d'abord que tout soit arrangé. Donc, mettre un peu la paix partout avant que nous puissions passer aux élections. Je retourne aux élections passées que dirigeait le président Joseph Kabila. Vous trouverez qu'on le faisait par sentiment. Il n'y avait pas eu les élections. Et nous voulons avoir cette fois-ci les élections crédibles, les élections normales, en fait que tout le peuple congolais y participe.
Emmanuel Kabengele, brève réaction.
Bon, en fait, il a sa vision par rapport au processus électoral et il s'est dit que les circonstances étaient dans l'état. Pour lui, il ne fallait pas qu'on se précipite vers les élections. Mais entre-temps, il n'a pas proposé d'alternative. Il n'a pas proposé d'alternative parce qu'en fait, on se retrouve déjà dans une dynamique constitutionnellement verrouillée. Et lorsqu'on se retrouve dans une dynamique constitutionnellement verrouillée, où à la fin de chaque cycle, il fallait que l'on organise des élections, je me dis que les élections pourraient n'être pas le meilleur, mais au moins les élections permettront de résoudre le problème de légitimité. Et si jamais on arrive en décembre 2023 à ce que les élections ne s'organisent pas, il y aura un gros souci de légitimité du gouvernement. Nous-mêmes, nous nous souvenons qu'en 2016, lorsque il y avait ce souci-là déjà de la psychose de la fin de mandat de régime, il y a eu des dialogues, il y a eu des concertations. Nous-mêmes, nous étions au dialogue de la cité de l'Union africaine, et puis finalement on est arrivé à un accord dit de la Saint-Sylvestre, et ça a permis d'une certaine manière de trouver solution à ce problème qui était verrouillé constitutionnellement. Nous pensons qu'il y a lieu que l'on ne pense pas au pire, que les acteurs s'investissent et se battent pour que les élections s'organisent et soient plus un instrument de paix, un instrument de développement et non un instrument de violence. Il y a encore du temps et on peut le faire.
Alors, parce que nous courons derrière le temps, on va vous demander de conclure. Emmanuel Kabengele, qu'est-ce que vous proposez, soyez concis, pour des élections apaisées et crédibles? Vos propositions?
En fait, moi, je veux très pratiquement aller dans le sens des élections apaisées parce que c'est ça qui connote un peu de questions d'investissement en termes d'appui aux aspects sécuritaires. Ce que nous proposons, et nous avons repris cela dans le forum, c'est que le gouvernement sorte le budget qu'il faut pour appuyer le service de sécurité, notamment la police nationale congolaise, à pouvoir s'investir et s'y prendre de manière professionnelle dans la sécurisation du processus électoral et même avant dans tout ce qui est aspect de maintien de l'ordre. Et là, on aurait gagné déjà dans la crédibilisation du processus.
Merci Emmanuel Kabengele. Cyril Ebotoko, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Kisangani.
Moi, c'est Benjamin Melima Melingo. Je vous appelle à partir de Kisangani, dans la province de la Tchopo. C'est un constat réel que les partenaires ont fait du processus électoral de cette année en République démocratique du Congo, car plusieurs fois que nous tendons vers la tenue des élections, notre pays est souvent menacé par de multiples cas d'insécurité. Mais cependant, si nous voulons des élections crédibles, apaisées et transparentes, le gouvernement congolais doit mettre tous les moyens en vue de la tenue de ces élections, notamment en dotant notre armée des moyens capables de stabiliser les parties qui sont secouées par l'insécurité grandissante, à l'occurrence dans la partie est et ouest de notre pays. Et aussi, la centrale électorale doit bénéficier de l'argent pour la tenue de ces élections à la date prévue selon les prescrits du calendrier électoral, et celle-ci doit solutionner les desiderata des parties prenantes pour que les élections se tiennent sans que nous ayons des troubles post-électoraux.
Cyril Ebotoko, soyez concis s'il vous plaît. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Comment vous réagissez au propos de cet auditeur?
Merci beaucoup, madame. Je serai très bref. En ce qui concerne la situation sécuritaire qu'il a abordée, au-delà du fait qu'on doit donner plus de moyens à notre armée, si le gouvernement n'y arrive pas, qu'il implique les troupes de l'EAC et celles de SADC qui vont arriver dans le plan de sécurisation du processus électoral pour permettre à ses compatriotes de pouvoir voter. En ce qui concerne les finances, je recours par exemple à une recommandation de nos pères évêques qui avaient demandé qu'on puisse réduire les trains de vie des institutions. Ça va permettre de dégager assez de moyens pour renforcer les finances des élections ainsi que donner plus de moyens à l'armée. Alors, en ce qui concerne la crédibilité pour éviter les résultats, je voulais dire, pour éviter les troubles post-électoraux, bon, il y a le président de la CENI qui a reconnu que le PVT n'était pas interdit. Les organisations de la société civile conduisent des PVT. Ils vont présenter leur rapport de PVT à la CENI avant de le publier. Et à l'issue de ces échanges, il y aura certainement assez de clarté et on va éviter des contestations inutiles.
Alors, pour conclure, votre conclusion, Cyril Ebotoko, nous sommes à 5 mois de la tenue des élections. Êtes-vous optimiste quant à l'organisation même des élections le 20 décembre 2023, comme l'a souligné, comme l'a confirmé le président de la CENI?
Que voulez-vous que je dise encore, madame? Le président de la CENI vous a dit que techniquement, la CENI, elle est prête. Alors, le gouvernement affirme qu'il va continuer à donner des moyens pour que la CENI organise les élections. Le gouvernement, on le voit, il s'emploie activement pour qu'il y ait retour de la paix et que tout le monde soit engagé au processus électoral. Donc, nous restons sur cette ligne et nous espérons que les parties prenantes concernées par ces contraintes vont tout faire pour qu'il y ait élection.
Merci Cyril Ebotoko. Il y a un auditeur, Jean-Claude Sibomana, qui nous écrit depuis la page Facebook de Radio Capi, qui pense que les élections apaisées passent par l'enrôlement des électeurs des territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. En dehors de cela, pas d'inclusivité et de transparence. Dani Aïda, qu'est-ce que vous en pensez?
Il a certainement raison. Maintenant, si la crise est assez grave et qu'il faille trouver des palliatifs, je crois que les politiques existent pour pouvoir prendre ce genre de décision-là. C'est des choses qu'on a déjà vues ici, ailleurs, et il faut le faire surtout à temps pour que ça soit réglé. Maintenant, sur le plan, je crois qu'il y a la question financière qu'il ne faut pas négliger. Beaucoup de partenaires internationaux, nous en faisons partie, s'intéressent à ces élections. Personnellement, je pense qu'il y a trop d'attentisme. Il y en a qui rencontrent la CENI, qui font le point, mais qui ne se prononcent pas trop. Ils connaissent les capacités de l'État congolais. Il ne faut pas attendre que la situation s'empire avant de dire on aurait pu faire ceci ou cela. Si on veut appuyer la CENI, si on veut apporter de la logistique, on le fasse. Et surtout qu'on le fasse à temps. Donc je crois que de ce côté-là, il faut interpeller cette communauté internationale pour qu'elle fasse mieux que ce qu'elle a fait par le passé et non attendre que, disons après, pour dire c'est tel acteur qui n'a pas joué son rôle.
Et vos partenaires internationaux, la RDC, est-ce que vous pouvez appuyer aussi la CENI? Vous avez,
Nous le faisons déjà. Nous, par exemple, l'India, nous appuyons les cas de concertation. Nous encourageons la CENI à le faire dans les provinces. Nous en avons soutenu dans une dizaine de provinces récemment. Et ce que nous venons d'organiser comme forum avec nos autres collègues d'IRI, Open Society, Internews et compagnie, fait partie de cet effort-là. Et nous sommes prêts également à appuyer la mise en place du code de bonne conduite des candidats. Et nous ferons certainement d'autres choses en appuyant les partis et candidats.
Merci Dani Aïda, merci à vous trois d'avoir participé à cette émission Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé, Dieudonné Nyangasa et Jean-Claude Sial a été à la mise en onde, présentation et coordination Kéline Kouté. Merci à Jonathan Fonani et Clément Chimanga qui vous ont permis de nous suivre en live sur la page Facebook de Radio Okapi. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.